RFI, bonjour, 17h en temps universel, bonsoir, 18h ici à Paris.
Nicolas Brousse.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est en Israël. Il a discuté avec Benjamin Netanyahou. L'Iran, disent-ils, est la principale source d'instabilité dans la région. Réunion de travail des principaux dirigeants européens demain à Paris, notamment pour parler défense commune et Ukraine, alors que les relations avec le traditionnel allié américain sont distendues pour le moins et ça ne va pas s'arranger, y compris entre les deux alliés les plus proches des deux côtés de l'Atlantique, américains et britanniques. Analyse à suivre. Un an après son arrivée au pouvoir, le président argentin va-t-il devoir faire face à une procédure de destitution? L'opposition y pense sérieusement. Le chef de l'État a conseillé un investissement en crypto-monnaie à ses administrés et cela se révèle être une arnaque. Marco Rubio entame donc sa tournée au Moyen-Orient par Israël. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré ce dimanche le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Les deux hommes ont affiché un front commun face au Hamas comme au Hezbollah qu'il faut détruire selon eux. Quant à l'Iran, nous allons terminer le travail grâce à l'aide des Américains, déclare Benjamin Netanyahou. Et pour Marco Rubio, décidément en phase avec son allié, le pays est la première source d'instabilité dans la région.
Le point commun de tous ces défis est l'Iran. C'est la plus grande source d'instabilité dans la région. Derrière chaque groupe terroriste, derrière chaque acte de violence, derrière chaque activité déstabilisatrice, derrière tout ce qui menace la paix et la stabilité pour les millions de personnes qui vivent dans cette région, il y a l'Iran. Et par l'Iran, j'entends les ayatollahs. Par l'Iran, j'entends son régime. Un régime que, soit dit en passant, son peuple ne soutient pas. Le peuple iranien est victime de ce régime. Je pense donc qu'il est important de souligner constamment que lorsque nous parlons du Hamas ou du Hezbollah ou des violences en Cisjordanie ou que nous parlons de la déstabilisation en Syrie ou encore des milices en Irak, le point commun, c'est l'Iran. Et cette question doit être abordée. Il ne peut jamais y avoir un Iran nucléaire. Un Iran nucléaire qui pourrait alors se tenir à l'écart des pressions et des actes. Cela ne peut jamais arriver. Le président a également été clair à ce sujet.
Un an après la mort en prison d'Alexeï Navalny, principal opposant au Kremlin, plus d'un millier de ses partisans ont osé se recueillir sur sa tombe à Moscou ce dimanche. Sa mère était présente, elle demande que les responsables de ce qu'elle qualifie de meurtre soient punis. La Russie qui sera dans l'esprit des dirigeants européens qui ont rendez-vous demain lundi à Paris pour des discussions sur la sécurité du continent. Dans la foulée des échanges lors de la conférence sur la sécurité de Munich, l'aide immédiate pouvant être apportée à l'Ukraine sera au cœur des discussions. En attendant, selon Volodymyr Zelensky, plus de 100 000 habitants de la ville portuaire de Mykolaïv sont privés de chauffage, résultat d'une frappe de drones russes ce dimanche contre une infrastructure énergétique, selon le président ukrainien. Au cours de cette conférence sur la sécurité de Munich, on a senti des tensions entre les pays européens et les États-Unis, tensions de plus en plus palpables. Il faut dire que la volonté américaine de négocier avec la Russie sans l'Union européenne irrite sur le vieux continent. Et cela pourrait bien marquer un tournant dans les relations transatlantiques, y compris entre États et Royaume-Uni, malgré les liens très forts entre Britanniques et Américains. C'est ce qu'estime Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et de sécurité. Il le confirme à Romain Lemaresquier.
Bien sûr, mais ça supposera effectivement que le Royaume-Uni, comme l'Europe d'ailleurs, fasse des choix difficiles, c'est-à-dire que l'alliance traditionnelle que vous soulignez, eh bien, est-ce que cette alliance existe toujours? Je pense qu'aujourd'hui, elle n'existe plus. Ça fait un certain temps que Keir Starmer, d'ailleurs, a décidé de se rapprocher des dirigeants européens, sans bien sûr que le Brexit soit annulé, ça paraît impossible, et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Quand on parle de l'Europe, bien sûr, on parle des pays aussi non membres de l'Union européenne, à savoir le Royaume-Uni et la Norvège notamment, qui doivent être partie évidemment intégrante de la défense et de la sécurité de l'Europe.
En Argentine, l'opposition menace d'engager une procédure de destitution contre le président. Javier Milei a partagé sur le réseau X un message faisant la promotion d'une nouvelle crypto-monnaie, la Libra. Suite à ce poste massivement repris, des milliers d'Argentins ont investi dans cette crypto-monnaie en quelques heures, mais les fondateurs ont ensuite vendu leur part, empochant des millions, et la monnaie s'est effondrée, laissant les citoyens avec des actifs ayant perdu toute valeur. Partout en Argentine, les économistes dénoncent une véritable arnaque, mais Rebecca Rondel, le chef de l'État, assure lui qu'il ne connaissait pas les détails de ce projet.
Quelques heures après la publication de ce poste et ses répercussions, Javier Milei l'a supprimé et a affirmé affirmé dans un second message qu'il n'avait aucun lien avec cette entreprise. Une entreprise qui, elle, s'inspire fortement du président. Sur son site, elle reprend son slogan fétiche « Viva la Libertad » et lui rend hommage. Hier, dans un communiqué, Javier Milei a précisé qu'il avait participé à des réunions avec une entreprise connectée à Libra, mais pour lui, rien d'anormal. Il ajoute qu'il partage au quotidien sur ses réseaux sociaux les projets de beaucoup d'entreprises. Il a tout de même annoncé la saisine du bureau anticorruption pour identifier une conduite inappropriée au sein du gouvernement et de la présidence, et la création d'une unité d'investigation au sein de la présidence, ce qui a suscité de fortes réactions chez les internautes. Exemple, le président enquête sur lui-même, ça ressemble à une autre blague. Suite à ce scandale, plusieurs partis demandent la création d'une commission d'enquête, voire un procès. Le groupe péroniste Union pour la Patrie a annoncé qu'il lancerait lundi une procédure en vue d'une éventuelle destitution.
Rebecca Arondel, des nouvelles du pape François, a assisté ce matin à la messe à l'hôpital où il a été admis vendredi pour une bronchite, renonçant à la traditionnelle prière de l'Angélus depuis le balcon de la place Saint-Pierre de Rome. À 88 ans, il préserve ses forces pour l'année jubilaire, explique le Vatican. Olivier Faure est le premier secrétaire du Parti Socialiste en France depuis 7 ans maintenant et il compte bien le rester en passant par la tenue d'un congrès au mois de juin. Il l'a annoncé ce dimanche, alors même qu'il se sait contesté en interne. Annonce décryptée par Charlotte Urien-Tomaca.
Quelques jours après que le bal des prétendants pour prendre la tête des Républicains à droite a débuté, c'est maintenant au tour de la gauche. Un congrès, je cite, pour trancher la ligne, a annoncé Olivier Faure et qui devrait avoir lieu au mois de juin. Dans ses propres rangs, l'actuel premier secrétaire du parti est contesté en interne par une ligne souhaitant la rupture définitive avec la France insoumise. Après 7 ans à la tête de sa formation politique, il est donc candidat à sa propre succession et lorsqu'on l'interroge sur le retour possible de l'ancien président François Hollande à la tête du parti, Olivier Faure rétorque « Je ne crois pas que ce soit la volonté des socialistes », prenant donc ses distances avec la ligne social-libérale de l'actuel député de Corrèze. Une candidature qui intervient en pleine période de turbulence entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, et alors même que Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI, déclare ce dimanche dans une interview, je cite, qu'il souhaite « tourner la page d'une alliance toxique avec les socialistes ». Mais pour Olivier Faure, la menace, c'est l'extrême droite.
Charlotte Urien-Tomaca, Olivier Faure qui par ailleurs s'attaque au Premier ministre, l'encourageant à démissionner après une polémique qui a animé la semaine politique en France. Analyse à suivre dans Dimanche Politique, rendez-vous dans maintenant une heure. Face au changement climatique et les vagues de chaleur qu'il induit, de nombreuses villes font le parti judicieux de replanter des arbres. Elles suivent les conclusions d'études montrant que la végétation permet de réduire la température et qu'elle a des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale des populations. Mais la plupart du temps, les agglomérations pensent d'abord quantité plutôt que qualité des plantations. Or, Lucide Gimbert, 3 chercheurs préviennent dans une analyse publiée sur le site de Conversation, il n'y a pas que le nombre qui compte.
Si on regardait nos villes depuis le ciel, il faudrait qu'il y ait 40% de couverture végétale, 30%. En réalité, il n'y a pas de chiffre magique, car il faut prendre en compte la densité de population, de bâtiments et le climat propre à chaque cité. Les chercheurs invitent aussi les agglomérations à établir leur plan de verdissement en fonction des objectifs de réduction des températures qu'elles veulent obtenir. Surtout, il faut choisir les bons endroits. Un arbre grandit, survit aux aléas et se reproduit s'il a accès à la quantité d'eau, de lumière et d'azote qui convient à son espèce, trop ou trop peu, et la végétation ne rendra plus les services escomptés. En milieu urbain, ces paramètres peuvent changer radicalement en quelques dizaines de mètres. Et puis, il faut planter auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, les citadins les plus pauvres, qui sont les plus exposés à la pollution et aux chaleurs extrêmes, sont les moins bien pourvus en végétation. Pour rendre vivables nos villes à long terme, diversifions aussi les essences d'arbres. Cela rend la forêt urbaine moins vulnérable aux maladies et aux insectes. Et choisissons des arbres qui pourront s'adapter au climat de 2050 et notamment à la sécheresse.
Lucile Gimbert, le hasard fait parfois bien les choses. Une version de l'âge mûr, célèbre bronze de Camille Claudel, retrouvée par hasard lors d'un inventaire dans un appartement parisien inhabité depuis plus de 15 ans, a été adjugée cet après-midi plus de 3 millions d'euros aux enchères. L'œuvre de la sculptrice s'était cachée sous un drap. Là, pas de hasard, c'est vous qui décidez. Le vote du public pour désigner le favori parmi les 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025 se termine ce soir à minuit, temps universel. Le vote est donc encore possible à l'adresse prixdécouverte.com. Il n'est pas trop tard pour accomplir son devoir d'auditeur en écoutant ID, Pierre-Edouard Deldic sur Radio France Internationale.